Les conditions de quorum étant remplies, je vous propose que l'on puisse commencer le conseil communautaire de ce soir. En commençant par mentionner que Aurore Gély-Pernot arrivera un petit peu en retard. Aubigné, je n'ai pas vu Pascal. Je me trouve bas là. Non, Pascal n'est pas là. Alain Fouglet, je l'ai vu. Isabelle Lavaste, Loïc Almeras, Isabelle Joucan, Marine Keshid. Pas vu pour l'instant. Patrice Guérin. Valérie Bernabé. Pascal Goriot, absent, excusé et a laissé pouvoir à Valérie Bernabé. Jean-Luc Dubois. Jean-Luc Dubois, je l'ai vu. Sophie Le Drian-Kennec-Du a donné pouvoir à Marie-Édith Massé. Normalement, c'est pour le début de séance. Marie-Édith Massé, présente. Patrice Dumas, aussi. Gaël Mestri, aussi. Monsieur Marvaux. Michel Lauré s'est excusé et m'a donné pouvoir à moi, Claude Jaouen. Pascal Vannier s'est excusé et a donné pouvoir, donne pouvoir à Yvon Taillard. Anita Aublin, je l'ai vu. Lionel Henry aussi. Ginette et Omar Chix aussi. Yvon Taillard aussi. Frédéric Bougeot présent. Carole Hamon présente. José de Masson présent. Christian Dumilieu présent. Jacques Richard s'est excusé et a donné pouvoir à Christian Dumilieu. Bertrand Legendre est bien avec nous. Yves Desmith aussi. Gérard Morel aussi. Véronique Saint-Huc aussi. Yannick Lecomte, je l'ai vu aussi. Noël Bournonville présent. Pascal Devamme aussi. Daniel Witt est excusé et a donné pouvoir à Jean-Luc Dubois. Laurence Blaise, je l'ai vu arriver. Voilà, bonsoir. Bien, donc la séance du conseil communautaire de ce soir est ouverte. Merci à la commune de Gard de nous accueillir dans ce très bel équipement où il fait très bon. Au sens agréable. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat. S'il n'y en a pas, je me tourne vers toi, Isabelle, si tu veux bien. Les fonctions de secrétariat vont être assurées par Isabelle. D'avance, merci. Concernant le début de séance, avant que je ne passe la parole au président du SMICTOM, Balcom Reyes, pronom salant que tout le monde connaît, pour la présentation du rapport d'activité 2022 du SMICTOM, concernant la séance du 11 juillet, y a-t-il des remarques ? Sur le PV, je veux dire. Pas de remarques ? Très bien, donc nous validons le procès-verbal de la séance du 11 juillet. Merci. Premier point, donc, rapport d'activité 2022 du SMICTOM Valcom Reyes. Rodan, merci d'être là pour la présentation et ce temps d'échange. L'exercice, c'est comme tous les ans. Exercice de présentation sur les points essentiels et puis pour pouvoir permettre également un échange de questions-réponses.
Tout voilà. À fait. Merci Claude, merci à vous de m'accueillir pour cette présentation que je vais essayer de faire comme d'habitude rapidement. Je vais balayer très rapidement les différentes pages du rapport d'activité 2022. On est fin 2023 quand même, donc on va essayer d'aller vite et il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas lieu. Juste vous rappeler que sur l'éditorial, je rappelle l'engagement fort des habitants de nos territoires sur la gestion des déchets et qui est corroboré ou corrélé avec l'engagement des équipes du SMICTOM pour faire en sorte que les choses se passent au mieux. Et donc on avance bien là-dessus. Je vous passe sur les éléments, sur l'histoire et les missions du Sphincter Valcobrise. Le Sphincter Valcobrise a été créé en 2020. Il représente qu'il est sur une population de 96 000 habitants, 52 communes, une évolution de population qui est importante puisqu'elle est sur 1,3% d'augmentation de population sur un an. C'est relativement important, c'est un territoire très dynamique. Je vous passerai sur la liste des communes, sur le comité syndical et toutes les délibérations que nous avons pu prendre sur l'année 2022. S'il y a des questions sur celle-ci, je pourrai y revenir, bien entendu. Vous rappelez que le bureau syndical est composé de Patrice Dumas, Georges Dumas, Emma Le Canu, Serge Millet, Ginette Enmarchix et moi-même, et que ce bureau se réunit tous les 15 jours et travaille sur la gestion des affaires courantes. Rappelez que l'organigramme du Sphincter Valcobrise, c'est 79 ETP, pas détailler les éléments, mais c'est une grosse collectivité. Rappelez sur les indicateurs techniques, il y en a un toujours qui est important, c'est 350 000 km, plus de 350 000 km faits par nos bennes ordures ménagères tous les ans. Juste pour rappeler que quand il y a une évolution du prix du carburant, comme on peut la vivre actuellement, ce n'est pas sans incidence pour nous. Donc ça joue beaucoup. Vous dire que la collecte des ordures ménagères se fait toutes les semaines et que la collecte du tri sélectif se fait tous les 15 jours, que la collecte des ordures ménagères, les ordures ménagères ne disparaissent pas dans la benne ordures ménagères. C'est désagréable, on aurait bien aimé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on envoie ça dans une usine d'incinération à Tadin. Et donc on incinère les déchets des habitants du territoire et ça produit l'électricité, l'équivalent de 8500 MW par an. On a une évolution de la quantité d'ordures ménagères collectées qui est très bonne. Si on regarde depuis 2017, on a une baisse constante avec un petit artefact en 2020, mais... pas ici que je dirais que 2020 était une année normale. On a tous vécu des conditions un peu particulières en 2020, si vous vous rappelez bien. Mais on voit aussi que depuis 2020 aussi, il y a une prise de conscience de plus en plus importante et donc une diminution forte des volumes d'ordures ménagères, 133,5 kg par an et par habitant. C'est très bien. Il y a des territoires qui font mieux, bien entendu. Mais si on se compare dans des territoires comparables, c'est-à-dire du périurbain et du rural mixte, comme on appelle ça, on est parmi les plus performants en France. La collecte des déchets recyclables, et bien derrière les déchets qui sont mis dans le bac jaune est valorisée dans un centre de tri qui se trouve à Villedieu-les-Poêles par l'entreprise Sphère. Et donc derrière, nous avons une valorisation de tous les éléments qui sont dans le bac jaune. Je dis bien de tous, 100% de ce qui est mis dans le bac jaune est valorisé. Il ne faut pas avoir d'état d'âme là-dessus. Tout ce qui est métal va redevenir du métal. Tout ce qui est carton va redevenir du carton. Tout ce qui est plastique va être trié et en partie valorisé. Et il y a évidemment un peu de ce qu'on appelle de refus de tri. On y reviendra tout à l'heure, mais les refus de tri, eux, sont valorisés énergétiquement puisque ces refus de tri sont incinérés pour produire de l'électricité. Et donc, on voit les résultats sur l'extension des consignes de tri, donc le fait qu'on mette tous les emballages dans le bac jaune, qui a été bien comprise par tout l'ensemble de la population, puisqu'il n'y avait qu'une partie du territoire qui, jusqu'en 2021, était en extension des consignes de tri. À partir de 2022, c'est l'ensemble de la population qui est là-dessus. On a travaillé sur la communication. Ça s'est accompagné d'une communication nationale, puisque l'ensemble du territoire national est maintenant, depuis le 1er janvier 2023, en extension des consignes de tri. Et on voit qu'on a pris plus 10 kilos sur le bac jaune par an et par habitant. On peut s'en féliciter, on peut aussi se dire que ce serait mieux de ne pas en avoir ou d'en avoir moins, ça veut dire qu'on a quand même trop d'emballage encore chez nous. Mais bon, c'est déjà très bien et ça nous permet de valoriser les choses. On a également de la collecte point d'apport volontaire, pardon, pour le verre, le papier et les journaux, avec pareil là une valorisation qui suit, et que l'ensemble de ce qui est recyclable revient à 92 kilos par an et par habitant, 92 kilos, presque 93 kilos, à mettre en corrélation avec les 133,5 kg d'ordures ménagères. On atteint presque l'équilibre entre... je ne parle pas de volume, je parle de tonnage, parce qu'en volume, évidemment, le bac jaune est beaucoup moins dense que les ordures ménagères. Je le disais tout à l'heure, on a des erreurs de tri, donc près de 24% d'erreurs de tri. Quand on le regarde, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure, puisque la moyenne nationale est à plus de 30%. Donc il faut encore améliorer les choses. Les erreurs de tri, c'est... tout simplement des erreurs de l'habitant ou des habitants, parce qu'il y a des choses qui ne paraissent pas évidentes. Ben, un cintre, c'est du plastique, on se dit bah ça se met dans le bac jaune. Mais comme ce n'est pas un emballage, ce n'est pas destiné à un centre de tri. Ça doit être mis dans la benne plastique des déchetteries, mais pas dans le bac jaune. C'est ça. Et puis, il y a aussi une part non négligeable d'erreurs de tri qui est liée au fait que le centre de tri lui-même n'est pas capable de tout trier aujourd'hui, tout simplement parce que des objets sont trop petits ou sont en mixte ou ne sont pas reconnaissables par les systèmes optiques qu'il y a. On a également la collecte en déchetterie sur notre territoire. C'est 300 kg par an et par habitant sur les 7 déchetteries que représente le Smictum, enfin que gère le Smictum Valcobrez. 300 kg, dont près de 100 kg de déchets verts. Là aussi, il y a des choses à travailler pour améliorer ça. On a les horaires de déchetterie, j'y passe, les textiles, linge et chaussures. C'est près de 6 kg par an et par habitant qui sont collectés. C'est plus 1 kg entre 2022 et 2021. Donc c'est plutôt bien. On a une amélioration de la compréhension du geste de tri sur les textiles. Je vous passe sur les tarifs des accès aux déchetteries pour les non-ménagers. Je vous passe également sur les tonnages précis qu'on a. Juste se rappeler que sur le slide suivant, on a une évolution en termes de tonnage dans nos déchetteries de moins 4%. Donc c'est plutôt une bonne chose, même si une étude un peu différenciée montre que c'est pour une part lié à une crise économique et qu'il y a moins de consommation, donc il y a moins de déchets. Quelque part, c'est une bonne chose pour le déchet. Je ne suis pas sûr que pour la vie de nos concitoyens, ce soit l'idéal de voir une crise économique. On a 658 tonnes de gravats qui ont été recyclés, et c'est plutôt une bonne chose, enfin c'est même vraiment une très bonne chose, puisque c'est 658 tonnes qui n'ont pas été à l'enfouissement, puisque pour les gravats, c'est l'autre alternative. On en recycle une partie, malheureusement pas assez, il faudrait continuer ça de façon plus importante, ça demande du tri, on le fait dans nos déchetteries de nouvelle génération, et ça améliore les choses. Sur les déchets d'équipements électroniques électronique, on a moins 13%. Est-ce que mes remarques sur le fait qu'on en jette trop tous les ans, que je me permets de faire à chaque fois que je fais le rapport d'activité, ont porté? Pourquoi pas? Je peux essayer de rêver. Dire qu'en déchetterie, on a une valorisation matière à hauteur de 23%, une valorisation énergétique à hauteur de 10%, une valorisation en amendement organique à hauteur de 33%, et donc un stockage d'inerte qui représente à peu près 30%. C'est trop, bien entendu, mais on n'a pas aujourd'hui de capacité à faire mieux. On travaille beaucoup sur la prévention au Smictum Valcobrez. On a un plan local de prévention des déchets ménagers assimilés qui est très ambitieux, mais qu'on essaye de tenir. On a en ambition de réduire de 50% l'enfouissement, de réduire de 20% les déchets verts, de passer à 65% de valorisation matière, de réduire de 30% les ordures ménagères résiduelles et de diminuer de 15% la part des biodéchets dans les ordures ménagères. C'est par rapport aux données de 2000, Patrice, aide-moi. Les données du PLPDMA, les données d'origine, quand on dit qu'on fait moins quelque chose, c'est par rapport aux données 2018, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est ça, donc de 2018. Et donc, juste pour revenir sur le volume d'ordures ménagères, quand on dit on disait qu'on allait réduire de 30% et que c'était très optimiste, si on revient sur le chiffre, revenez pas, moi je vais le reprendre, sur le chiffre des tonnages de l'année, on va se rendre compte qu'on est en 2018, on était à 147 kilos par an, enfin, presque 148 kilos par an et par habitant. On est à 133. On n'est pas au 30%, mais on approche. Et donc, ça veut dire que notre plan local de prévention des déchets, il fonctionne et il avance. Vous dire également, donc, dans la partie prévention, on travaille beaucoup sur le compostage. Il y a 886 composteurs qui ont été vendus en 2022. Il y a 38 lombricomposteurs qui étaient une nouvelle opération qui ont été vendues en 2022. Ça se développe encore sur l'année 2023. Il y a 10 nouvelles aires de compostage collectif qui ont été mises en place en 2022. Tout ça, ce sont des ordures ménagères en moins dans nos bacs noirs. On a en point d'avoir volontaire la collecte des papiers et des journaux, donc 90 points d'avoir volontaire, 728 tonnes de papier, 69 tonnes de journaux qui sont valorisés directement, les journaux sont valorisés en isolant thermique, et on a également une prestation pour les collectivités, enfin pour les administrations et les entreprises, d'une collecte des papiers bureautiques, donc des papiers blancs, papiers bureautiques classiques, et on a quand même récupéré presque 18 tonnes l'année dernière, ce qui est plutôt bien. C'est une prestation gratuite, je vous invite à contacter le Smictum si vous souhaitez que votre collectivité ou les entreprises de votre territoire puissent en bénéficier. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. On a inventé sur le Smictum Valcobrez un concept assez nouveau, et on l'a inventé en 2020. C'est le vide déchetterie. On a un peu de recul maintenant, puis on a 2023 qui nous prouve qu'on ne s'est pas complètement trompé. En 2022, il y a eu 9 vides déchetteries qui ont été organisées sur les déchetteries de Liffré et de Combourg. 6 sur les déchetteries de Liffré, 3 sur les déchetteries de Combourg. Ça a permis d'éviter 7,5 tonnes de déchets. Donc c'est 7,5 tonnes d'objets qui ont une deuxième, une troisième, une énième vie. Et ça a permis aux associations partenaires de récolter 6 600 euros. Donc c'est quelque chose qu'on est en cours de déploiement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça se fait sur la déchetterie de Combourg, sur la déchetterie de Liffré. Ça va se faire sur la déchetterie de Saint-Aubin-d'Aubigné à partir du moment où celle-ci va être livrée. Je vais y revenir dans quelques instants. Et on essaye de développer ça au maximum dans les déchetteries qui le permettent. En 2022, on avait mis en place, fin 2022, une collecte des coquilles dans 4 déchetteries du territoire et de façon assez exceptionnelle, on a collecté plus de 3 tonnes de coquilles en moins d'un mois avec une communication qui s'est faite, avec une réactivité des services qui a été très importante et une communication qui s'est faite dans un temps très court. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place. On l'a fait en expérimentation sur la période des fêtes l'année dernière. On voudrait le développer et le mettre en place pour des périodes plus longues à partir de, on va dire, du mois d'octobre. On est en cours de validation d'un certain nombre de choses, même si on n'a pas toutes les réponses de la part des services de l'État sur la nature des déchets que représentent des coquilles. Donc c'est un peu compliqué. On a des résultats de valorisation, donc globalement, là, c'est pas en déchetterie, mais sur l'ensemble. Donc, on a un peu plus de 30% en valorisation matière, un peu moins de 30% en valorisation énergétique, un peu moins de 20% en amendement organique, et le reste part en enfouissement, stockage inerte pour 11,5%, enfouissement pour 7,5% et élimination spécifique. Alors, l'élimination spécifique, c'est les déchets dangereux, donc ceux-là, on va les mettre vraiment à part, pour 0,5%. Un bilan matière, donc c'est 51 000 tonnes qui ont été collectées, qui ont été traitées et collectées par le Smictum Valcobraise. C'est 55% dans les déchetteries, c'est 24% dans les ordures ménagères et 20% dans le tri sélectif. Il faut avoir ces chiffres-là en tête pour se rappeler les ratios en termes d'éléments. Je vous passe sur les résultats de ce qu'on fait avec les différentes matières qui sont collectées dans le bac jaune. Vous rappelez qu'avec 208 tonnes de papier d'acier recyclé, on fait 2964 lave-vaisselle, ce qui veut dire que sur la population du territoire, on doit changer de lave-vaisselle très souvent. Sur les indicateurs financiers, le compte administratif 2022 indiquait un résultat négatif de moins 219 113 euros, lié essentiellement à une augmentation des charges, notamment du carburant, mais également l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Un certain nombre d'éléments, on l'avait rappelé à cette époque-là, qui fait que effectivement le résultat à la fin de l'année 2022 était négatif. Il avait déjà été en 2021, on avait fait une augmentation des redevances en 2022. On a malheureusement été obligé d'en refaire une en 2023 pour pallier à l'évolution des coûts qui sont liés à la gestion des déchets. Et donc un compte administratif sur l'investissement qui s'établit à 3 793 501 euros. Mais c'est normal puisque nous avons fait un très gros emprunt permettant de financer l'ensemble une grande partie du renouvellement des déchetteries qui est en cours en 2020. Et donc on consomme cela. Et donc du coup, on a encore un reste à réaliser si on le prend sur l'ensemble du projet qui est fait, même si ce n'est pas acté en reste à réaliser puisque les études ne sont pas encore faites sur un certain nombre de déchetteries qui sont à revoir. Et là, paradoxalement, si on regarde la capacité d'autofinancement brut, je laisserai les spécialistes des finances publiques vous expliquer pourquoi, d'un côté, le compte administratif affiche moins de 219 000 euros, ce qu'on a constaté à la fin, mais une capacité d'autofinancement de 700 000 euros. Bon, comme quoi tout n'est pas très clair, mais c'est ce qu'on appelle les amortissements pour permettre le renouvellement de nos équipements régulièrement. Et dans nos équipements, nous avons aussi nos déchetteries, donc c'est un peu important. On a une dette qui, évidemment, a augmenté en 2021 et commence à baisser en 2022 puisque nous remboursons du capital sur nos emprunts. Alors, le coût net de prestation de collecte, c'est un slide qu'on a tous les ans. Je mets tous les ans les bémols. Ce n'est pas le prix que paye chacun que je dois payer la personne seule dans son logement, puisque c'est l'ensemble des coûts divisé par l'ensemble des habitants sur le territoire. On arrive à 73,60 €. C'est très bon. Je n'ai pas les chiffres au niveau national de 2022. J'ai ceux de 2020. En 2020, le Smictum Valcobraise avait un coût à l'habitant qui était de 69 €. Le coût minimum donné par l'ADEME sur l'étude qu'ils ont faite en 2020, le coût minimum était de 69 €. Je n'en déduis rien, je vous laisse le déduire vous-même. On a évolué, mais effectivement, nos charges ont augmenté, notamment pour le carburant, pour la masse salariale. On est aujourd'hui à 73,60 €. Je pense qu'on est encore dans le peloton de tête, enfin, le peloton le plus bas dans ces chiffres-là. Je vous passe sur la redevance et tarifs et ce fonctionnement, puisqu'il y a des évolutions qui sont en cours sur ces éléments-là et que les tarifs 2023 ne correspondent plus au tarif 2022. Vous rappelez que le montant des redevances non ménagées représente 840 000 euros pour le SMIC Tom Valcobrez, qu'on a passé un certain nombre de marchés publics en 2022, la fourniture de bonnes ordures ménagères, une étude de faisabilité pour une collecte en tous les 15 jours, qu'on avait des perspectives fin 2022 pour se dire qu'en 2023, nous allions faire un certain nombre de choses, la construction d'un pôle technique à Saint-Thomas-de-Bénier qui comprend un quai de transfert porté par le syndicat mixte des pays de Rance et de Baie, des locaux techniques et des garages pour nos véhicules et nos agents, une déchetterie entièrement rénovée et, si vous avez bien tous reçu l'invitation, l'inauguration aura lieu le 29 septembre à 18h sur le site lui-même. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Le montant de ces travaux, c'est 4,3 millions quand même. Il faut se le rappeler, c'est un gros investissement pour le SMIC Tom. On a fait l'expérimentation de la collecte des coquilles vides. Eh bien, ça fonctionne et on va essayer de faire perdurer ça sur l'ensemble de l'année. On a un nouveau standard téléphonique. C'était catastrophique, on est tous d'accord pour le dire. Depuis le nouveau standard téléphonique, les choses se sont nettement améliorées. On a encore quelques appels qui restent sans réponse, mais globalement, on est beaucoup descendu. On a même eu un avis positif sur Google il y a quelques jours. Donc, c'est veut dire que les choses s'améliorent nettement. On a encore du retard dans le traitement des dossiers, je le concède, et on y avance. Mais on a 30% de moins de dossiers en retard. Là, à date, par rapport à l'année dernière, malgré quelques aléas, malgré des difficultés à stabiliser nos équipes, et ce n'est pas toujours simple. On a une application, on avait prévu de mettre en place une application pour téléphone mobile. Je vous invite à télécharger le petit outil qui s'appelle Valcobrez et moi, que vous trouverez dans la poche, enfin sur votre plateforme, que ce soit, quel que soit le téléphone, vous trouverez Valcobrez et moi. Ça va être très pratique pour ne pas avoir à se rappeler sur un post-it sur le frigo, comme c'est le cas chez moi, pour se dire « la poubelle jaune, c'est la semaine prochaine ». Donc ça, ça permet d'avoir une alerte quand on a besoin de sortir la poubelle jaune ou le bac noir. On a une étude pour regarder sur la fréquence des collectes des ordures ménagères, donc le bac noir, tout simplement parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui que d'abord il y a quelques économies à faire, potentiellement, il faut qu'on le revérifie, qu'on le regarde, donc l'étude est en cours là-dessus, mais on se rend compte que le taux de présentation des bacs d'ordures ménagères est inférieur à 40% sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, et donc quelle est la réalité du besoin de passer toutes les semaines, même si il y a des effets de bord qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a reçu la famille et qu'on a beaucoup de déchets, si les poubelles ne passent que 10 jours ou 15 jours plus tard, ça va commencer à être un peu pénible pour les voisins et des choses comme ça. Quand on a des enfants en bas âge et qu'on a des couches qui s'entassent dans la poubelle, est-ce qu'on peut gérer ça pendant 15 jours? Donc tout ça, c'est des choses qui sont scrutées actuellement. Et nous avons une nécessité, c'est une harmonisation de nos redevances non ménagées. Et donc une réflexion est en cours. Je finirai j'en ai fini avec la présentation des éléments du rapport 2022. Avant de répondre aux questions, trois petits points. Je l'ai dit tout à l'heure, l'inauguration du site de Saint-Aubin-de-Bigné le 29 à 18h. Nous avons également une optimisation des tournées, puisque le site de Saint-Aubin nous est livré. Nous pouvons optimiser nos tournées, ne plus aller sur décharger les bennes ordures ménagères sur le site de Saint-Hilaire-des-Landes. Et donc, on va rester sur Saint-Aubin-d'Aubigné. Donc, on va gagner du temps agent. Et donc, dans ce cadre de l'augmentation de ce temps agent, on va mettre nos agents à collecter des bacs et à revenir simplement à Saint-Aubin-d'Aubigné pour aller vider. Donc, l'ensemble des tournées du SMIC Tom Valcobrez a été revu. Pour 80% des habitants du territoire, le jour où l'horaire de collecte a changé, que ce soit les ordures ménagères ou le tri sélectif, à partir du 2 octobre. Donc normalement, la communication a commencé auprès des collectivités. On va avoir une communication qui, normalement, doit arriver dans les boîtes aux lettres cette semaine de tous les habitants avec un petit numéro de Je valorise en expliquant les choses. On va avoir l'application dont je parlais tout à l'heure qui va permettre de se rappeler tous ces éléments-là. On va avoir évidemment une communication presse. On va relancer les choses. On essaie de faire au maximum. Je le sais, on le sait tous, le mois d'octobre, il y aura des bacs qui seront sortis au mauvais moment, des bacs qui ne seront pas sortis au moment de la collecte, mais ça va se réguler. On l'a déjà expérimenté en 2021 quand on a mis les bacs jaunes en place. Ça va se régulariser dans le mois qui suit, tranquillement. Les habitants prennent très vite les habitudes. Donc voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est que depuis la semaine dernière, nous avons, pour les communes qui ont répondu à l'appel à projet que nous avions fait, la manifestation d'intérêt que nous avons fait, Nous avons une collecte et un traitement spécifique des biodéchets pour les cantines scolaires. Quelque chose qui fonctionne bien. On est très content du résultat de la première tournée. Il y a eu une tonne qui ont été là. Il y a quelques questions qui remontent de la part des cantines qui sont sur le sujet. Les services du SMICTOM, regardent ça et vont essayer d'y répondre le plus vite. Il y a notamment, parce que la question s'est posée plusieurs fois, il y a quelques asticots qui sont apparus dans les bacs de biodéchets. Peut-être avec une chaleur un peu forte pour un mois de septembre, donc qui n'était pas prévu. Alors, juste deux choses. On va essayer de trouver une solution pour au moins que ça ne se voit pas, en tout cas que ce soit moins désagréable pour les agents qui gèrent ça. On a un premier élément. Deuxième, c'est que c'est la chaleur qui a fait ça. Et le troisième point, c'est que ces mêmes asticots, ils étaient déjà dans nos poubelles avant. Mais on ne les voyait pas parce que c'était dans la poubelle noire et qu'on ne le voyait pas, c'était au milieu du reste. Là, on les voit parce que effectivement, le bac est ouvert, etc. Mais on va essayer de trouver des solutions, aménager les choses par rapport à ces contraintes-là. On sait aussi qu'il y a un petit problème par rapport aux housses de bac dont on a doté les communes, pour lesquelles il y a quelquefois, ça glisse un peu à l'intérieur. Donc on va trouver une solution. Les services sont en train de regarder toutes les hypothèses qu'il peut y avoir. Et voilà. Mais globalement, c'est une belle chose, ça fonctionne. Et je rappelle que de toute manière, au 1er janvier prochain, les producteurs, ce qu'on appelle non ménagers, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un habitant foyer lambda, doit avoir une solution de tri à la source des biodéchets, c'en est une, et efficace. Et derrière, on produit du biogaz qui est injecté dans le réseau, qui permet d'alimenter nos bennes à ordures ménagères qui fonctionnent au bio-GNV, et donc on va collecter les ordures ménagères avec les résidus des ordures ménagères, le gaz produit par les ordures ménagères. Il y a un cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place et qui est plutôt sympa. Voilà, moi j'en ai fini avec la présentation et évidemment, je suis ouvert à toute question pour y répondre.
Merci beaucoup. Donc des questions, des demandes de précision, Isabelle ?
Oui, merci pour cette belle présentation. Vous avez parlé de la collecte des papiers dans les mairies, dans les services administratifs. Est-ce que c'est envisagé dans les écoles ?
De la même manière, c'est tout à fait possible. On peut mettre en place des bacs, ce qu'on appelle les bacs bleus, et on peut les mettre pour les écoles. Après, il faut juste qu'il y ait une volumétrie, mais dans les écoles, c'est tout à fait probant pour que ça fonctionne. Et voilà. Après, il faut un tri particulier parce qu'il faut effectivement que ce soit que des papiers dits bureautiques. Donc, des feuilles de cahier fonctionnent bien, des photocopies, des papiers blancs, tout ça marche. Et effectivement, s'il y a un besoin, on peut envisager de le mettre dans l'école. D'autant plus si la mairie est déjà dotée d'un bac bleu, puisque quelque part on passe là pour faire la collecte, autant passer pour les deux bacs.
Merci.
Alors c'est en fonction des demandes et en fonction globalement, on a une tournée à peu près tous les deux mois. Il y a une tournée qui passe un mois sur le territoire est, un mois sur le territoire ouest, et après, en cas de besoin, parce que ça se remplirait trop vite, on reviendra faire une collecte spécifique à un moment et éventuellement on dotera l'entreprise, la collectivité, l'administration qui en a besoin d'un deuxième bac pour permettre d'avoir cette rigidité. Mais globalement, nous, dans nos plannings, c'est tous les deux mois.
Pour continuer sur l'administratif, aujourd'hui c'est ouvert aux mairies et donc sans doute aux écoles. Est-ce que ce serait possible de l'ouvrir aux particuliers, que les particuliers puissent avoir un endroit où amener l'administratif ? J'entends par là pas forcément particulier dans sa maison, mais particulier en auto-entrepreneur ou en petite entreprise qui utilise du papier administratif beaucoup. Et voilà, qui aujourd'hui le recycle dans les bacs bleus publics, hein, mais c'est un manque à gagner quand même, je trouve.
C'est probablement un manque à gagner si on regarde que la recette à la fin, sauf que pour aller collecter, que ce soit en point d'apport volontaire ou voilà, on va avoir un coût induit. Et donc ce coût induit, à mon avis, il ne compense pas. À partir du moment où on a une certaine volumétrie, ça peut devenir intéressant, mais il faut effectivement qu'il y ait cette volumétrie. Et donc dans le principe de l'ouvrir, je dirais, de façon dérogatoire, quelqu'un qui me dit je produis 100 kilos de papier bureautique tous les deux mois, on va passer, on va trouver une solution. Mais de dire que c'est une offre de service qu'on pourrait mettre à disposition de tous les habitants, potentiellement ça veut dire qu'on arrêterait le camion toutes les quatre rues et ça deviendrait très compliqué à mettre en œuvre et le modèle économique ne tient plus.
Et est-ce que ça pourrait être une communication sur inscription ? Par exemple, j'élimine toutes mes archives. Comment j'appelle le SMICTOM pour lui dire j'ai plein de papiers administratifs, comment je fais ?
Alors, si c'est du désarchivage, il y a un service de désarchivage qui est mis en place par le SMICTOM, donc pour les non-ménagers. Et donc, effectivement, il y a une facturation, par contre, derrière. Mais là, on a tous les éléments de confidentialité. Et pour une entreprise, même si on est auto-entrepreneur, on a besoin de ces déclarations-là pour pouvoir à la certification que les documents ont bien été traités, détruits et que la confidentialité est là.
OK. J'ai une deuxième question qui n'est pas du tout dans le même sujet. Qui n'est pas forcément du ressort du SMICTOM, mais peut-être le SMICTOM pourrait essayer de faire avancer les choses. Les bâches agricoles, aujourd'hui, c'est un vrai problème de collecte, et c'est une collecte spécifique, je le sais. Sauf que, a priori, en 2023, il n'y aurait pas de collecte. Et je crains des feux et des feux de bâches agricoles dans les coins de champs. Est-ce que le SMICTOM pourrait envisager un petit courrier à la Chambre d'agriculture ?
Le SMICTOM peut envisager. Il faut me faire un mail là-dessus pour qu'effectivement on puisse prendre attache auprès de la Chambre d'agriculture pour leur rappeler leurs obligations, et notamment à travers l'éco-organisme Adivalor qui a normalement l'obligation d'aller collecter et traiter ça. Et s'ils ne l'ont pas fait, là, ils se mettent en défaut et potentiellement, on peut mettre en alerte les services de la préfecture pour leur dire qu'il y a un souci de ce côté-là. Mais évidemment, on le fera de façon modérée en passant d'abord par la Chambre d'agri pour les alerter sur un problème de ce type-là. Mais je veux bien un petit mail pour me rappeler ça.
Merci.
C'est un défaut 2023 et les années antérieures ?
Les années antérieures, il y en a toujours une au moment de octobre, novembre. Et là, on s'est renseigné pour savoir à quelle date ce serait cette année. Et on nous a répondu mai 2024. Voilà.
Faut rappeler à la Chambre d'agriculture quelles sont ses obligations. Hein. D'autres questions ?
Moi, j'ai toujours des questions sur les déchets. Les communes qui ne sont pas raccrochées à vous pour les biodéchets, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut envisager de réfléchir avec vous ?
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Après, il faut que ça rentre dans le schéma et dans le circuit de collecte qu'on a. Aujourd'hui, on a modélisé des choses parce que ça a été compliqué à mettre en œuvre. On est parti de zéro et on l'a mis en place. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui se sont penchées sur ce sujet-là. Et donc, on est un peu novateur. Donc, on essuie les plâtres. C'est un peu compliqué. Et moi, je remercie toutes les communes qui l'ont fait avec l'engagement et la qualité du tri qui a été fait partout. Après, il faut prendre contact avec le SMICTOM, avec le service exploitation ou le service prévention, non, le service exploitation, qui gère ça, me mettre en copie et on regarde. Je ne peux pas dire que la réponse sera oui, mais effectivement, ça se regarde. Quoi qu'il arrive, ça se regarde.
Non, on a des solutions, mais au cas où ces solutions s'arrêteraient, j'allais dire localement. Moi, je pensais qu'il y avait un tonnage minimum pour que... Non, la loi n'a pas dit que c'était 2 tonnes. Je croyais que c'était un tonnage... Voilà.
Au 1er janvier 2023, tout ce qu'on appelle les gros producteurs produisant plus de 5 tonnes par an de biodéchets, avait déjà l'obligation d'avoir un tri et un traitement spécifique des biodéchets. Au 1er janvier 2024, tout non-ménager, donc toute entreprise, administration, tout non-ménager, a l'obligation d'avoir un tri à la source des biodéchets. Ça peut être du compostage, c'est pas le plus vert, ça marche, mais ça reste juste de l'élimination des déchets par amendement au sol. Là, nous, on propose d'aller un peu plus loin avec une solution de méthanisation. Par contre, la méthanisation, elle est évidemment sous contrôle, puisque pour méthaniser des produits qui ne sont pas des produits agricoles, il y a évidemment toute une phase de déconditionnement, parce que nous, on met des housses de bac, donc on fait un déconditionnement, mais surtout une hygiénisation, c'est-à-dire qu'on élimine les bactéries qui pourraient être dans les biodéchets, c'est chauffé pendant une heure à 70 degrés, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et donc après, ça part dans le méthaniseur. Mais ça, on a aujourd'hui un méthaniseur agricole qui est équipé sur le territoire du SMICTOM Valcobraise, avec lequel on a conventionné pour fonctionner. Il y en a un deuxième qui est en cours de travaux, ou en tout cas en réflexion sur les travaux, pour arriver courant 2024, et on va regarder les évolutions et et également le tarif auquel ils nous proposent le traitement de ces déchets.
Merci. Pas d'autres questions ? Très bien. Il nous reste donc à te remercier.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de présenter cela. Les déchets, c'est un sujet passionnant. On y retourne.
Bien. Merci. Merci beaucoup. Et donc, formellement, nous, Conseil communautaire Valdile-Lominier en cette séance de ce soir. Prenons acte de la communication, de la présentation du rapport d'activité 2022 du SMICTOM Valcomreis. Encore merci. Merci. Bonne soirée. Merci Yannick d'avoir l'œil, sinon ça pouvait finir en déchets. Recyclé. Réemploi. Le point 2 de l'ordre du jour. Mais avant, je pense que Philippe, Maxime, vous avez noté l'arrivée d'Aurore et de Sophie Ledrian-Kenigdu. Association et initiative Rennes, convention pluriannuelle 2023-2025. L'association Initiative Rennes, dont le siège social est situé aux 2 avenues de la préfecture à Rennes, est membre du réseau national Initiative France. Elle a pour objectif de favoriser la création et la reprise d'entreprises sur le pays de Rennes. La communauté de communes Valdile-Lominier est partenaire d'Initiative Rennes depuis sa création en 2000. Elle participe à la dotation du fonds d'intervention de la plateforme d'initiative locale de l'association. Ce fonds d'intervention est un fonds propre, constitué de fonds publics et privés, créés et gérés par l'association. Grâce à ce fonds, l'association attribue des prêts d'honneur personnels aux porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une entreprise. À travers la convention de partenariat pluriannuel, Initiative Rennes s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre en cohérence avec les compétences de la communauté de communes Valdile-Lominier les actions suivantes. L'octroi de prêts d'honneur à la personne au bénéfice du créateur ou groupement d'entreprise. Un parrainage par un chef d'entreprise expérimenté. Un suivi des entreprises assuré en réseau avec de nombreux acteurs du territoire, dont les organismes consulaires. Initiative Rennes s'engage par ailleurs à inviter la communauté de communes Valdile-Lominier au temps fort de l'association, qui sont des temps collectifs, des jurys, des comités d'engagement, des assemblées générales. Offrir de la visibilité à la communauté de communes Valdile-Lominier sur les éléments de communication de l'association. Informer régulièrement la communauté de communes Valdile-Lominier des octrois de prêts d'honneur aux créateurs ou repreneurs d'entreprises de notre territoire. De notre côté, et conformément à la stratégie de soutien à l'entrepreneuriat, la communauté de communes Valdile-Lominier s'engage à soutenir l'association avec des moyens suivants. Un soutien financier à hauteur d'une contribution similaire à la période triennale 2020-2022, sous réserve de validation des budgets correspondants par les élus communautaires. La contribution destinée à abonder le fonds d'intervention s'élève à 20 000 euros par an. La participation sur invitation et dans le respect des statuts de l'association au temps fort de l'association. Notre politique de communication, de mise en valeur de portraits de créateurs et un kit signalétique, de prêt de salle à titre gratuit sous réserve de disponibilité et avec un quota maximum, et invitation aux événements pertinents de notre communauté de communes. Voilà les engagements réciproques de cette convention pluriannuelle 2023-2025 de l'association Initiative Rennes. Et ce soir, donc, il est proposé au Conseil communautaire de valider les termes de la convention de partenariat avec Initiative Rennes pour cette période 2023-2025, de m'autoriser à signer la convention de partenariat pour la période 2023-2025 et à m'autoriser à signer tout document relatif à l'exécution de cette présente délibération. Avez-vous des demandes de précision ? Bien, je soumets donc au vote. Sur les termes de cette délibération, qui ne souhaite pas prendre part au vote, qui est opposé, qui s'abstient, validé à l'unanimité, je vous remercie. Le point 3, convention d'accompagnement à la qualification avec le SPEF, proposition d'un avenant numéro 2. Le réseau SPEF Bretagne est une association de loi 1901 constituée en juin 2013 ayant pour objectif la coordination au niveau régional de l'action menée par les structures de proximité de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Dans le cadre du pacte régional d'investissement, dans les compétences du Conseil régional de Bretagne 2019-2022, dont l'objectif numéro 2 porte sur la sécurisation des parcours de formation des personnes les plus fragiles à travers le développement d'un accompagnement adapté, le réseau SPEF et la région Bretagne ont signé une convention par laquelle la région Bretagne s'engage à soutenir financièrement le réseau SPEF pour expérimenter la mise en œuvre de l'accompagnement à la qualification par 11 structures de proximité emploi-formation. En mai 2023, une nouvelle convention a été signée portant à une expérimentation de la mise en œuvre de l'accompagnement à la qualification par 30 structures de proximité emploi-formation. Un des axes de cet objectif est de favoriser l'émergence d'une fonction d'accompagnement partagé des publics les plus fragiles. Par délibération en date du 14 juin 2022, le Conseil communautaire a validé les termes de la convention avec le SPEF, le réseau des structures de proximité emploi-formation de Bretagne, dans le cadre de l'expérimentation accompagnement à la qualification. Par délibération en date du 14 février 2023, le Conseil communautaire a validé les termes de l'avenant numéro 1 à la convention accompagnement à la qualification, prolonger les termes de la convention jusqu'au 30 juin 2023. Par mail en date du 19 juillet 2023, le réseau SPEF a informé la communauté de communes de la signature d'une nouvelle convention et le conseil régional pour poursuivre l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2024. Aussi, pour rester en conformité, il est proposé à la validation du conseil communautaire ce soir de valider un avenant de prolongation numéro 2 à cette convention initiale entre le réseau SPEF et la communauté de communes Val-d'Illuminier avec une date d'effet et durée de la convention prolongée de 9 mois et portée en conséquence pour une durée totale de 30 mois avec une fin au 31 mars 2024 au lieu du 30 juin 2023. Tous les autres articles de cette convention restent inchangés. Donc un avenant en délai. Des questions ? Je vous propose de valider cet avenant de prolongation de délai de cette convention. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? Validé. Je vous en remercie. Le point 4, une DIA sur la commune de La Mézière. Donc sur la commune de La Mézière, une DIA qui a été envoyée par l'étude de maître L'Olivier, notaire à Rennes, est reçue en mairie de La Mézière le 3 août. DIA concernant la parcelle Z2-231 d'une superficie totale de 1800 m², le vendeur étant la SCI L'Olnicep, domiciliée 5 rue de Cerizet à Saint-Grégoire. L'acquéreur, Savé Patrimoine, domicilié 4 allée du Calvaire à Bourg-des-Comptes, prix de vente 570 000 euros, auxquels s'ajoutent les frais de commercialisation et les frais d'acte de 41 040 euros. Vous avez la localisation dans la suite de la note. Le foncier est situé en zone UA2 de la zone d'activité Beau Séjour à La Mézière. Savé Patrimoine est une société créée en juin 2023 dont l'activité entre dans le cadre de l'objet des sociétés financières ou holding dans l'acquisition et gestion des biens immobiliers. Représenté par M. Savé, ce dernier est dirigeant et actionnaire d'autres entreprises dédiées à l'acquisition et gestion des biens immobiliers, dont Note Imo Invest et Note Imo Vesa. La proposition est de ne pas préempter ce bien. Pas de questions spécifiques. Je soumets à validation. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé à ceci ? Qui s'abstient ? Merci. Point 5. Contrat de solidarité territoriale avec le Conseil départemental. Proposition d'approbation. Les contrats départementaux de territoire constituent depuis 2006 en Ille-et-Vilaine un outil structurant pour porter des solidarités territoriales. Le contrat précise les modalités de mise en œuvre du dispositif, contrat départemental de solidarité territoriale, sur le territoire du Val d'Illuminier et départemental, bien sûr, ainsi que les engagements réciproques des deux partenaires pour une période de 6 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028. Le contrat départemental de solidarité territoriale se présente en 2 volets. Un volet investissement qui regroupe l'ensemble des opérations d'investissement du territoire financées dans le cadre du contrat. Il y a un volet fonctionnement qui regroupe l'ensemble des actions de fonctionnement et de, que les co-contractants proposent annuellement de soutenir dans le cadre de ce contrat de solidarité territoriale. Les enjeux partagés sont amplifier la dynamique des transitions, conforter et développer une offre de services de proximité adaptée à tous, faciliter l'accès à la culture et au sport pour le bien vivre ensemble, promouvoir un tourisme durable et responsable à partir des atouts du territoire. Les opérations et actions du présent contrat au titre du volet investissement devront permettre de s'inscrire dans les enjeux définis en commun. Pour la communauté de communes, l'enveloppe disponible en investissement est de 2 356 976 euros pour la durée totale de la contractualisation. En investissement, 10% de l'enveloppe sont strictement dédiés aux bonifications des subventions de projets répondant à des enjeux de transition écologique et de justice sociale. La part annuelle pour le fonctionnement s'élève au maximum à 83 639,66 euros, dont 20% sont dédiés aux projets nouveaux tous les ans. Ceci, on a déjà évoqué lors de la présentation de la validation de ce volet fonctionnement. Concernant la programmation du volet investissement, tous les projets inscrits au contrat départemental de solidarité territoriale doivent revêtir un intérêt supracommunal et être cohérents avec les enjeux partagés du territoire. L'annexe au contrat présente, en complément de la programmation 2023, une liste indicative de projets identifiés, recensés, afin notamment de pouvoir mobiliser l'ingénierie départementale en fonction des besoins. Jusqu'en 2025, la liste de ces projets pourra être actualisée et complétée annuellement par le comité de pilotage territorial, qui se réunit en effet annuellement sur la durée du contrat. Les membres du COPIL ont été désignés par le bureau communautaire du 20 janvier 2023, pour ce qui concerne les élus communautaires, bien sûr. Vous avez ensuite la composition, la liste des membres, de l'ensemble des membres du COPIL, les élus départementaux Armel Billard, Olwen Dénès, Nicolas Perrin, Jean-Michel Le Guenec et Gaël Mestri, les élus départementaux du territoire intercommunal Ludovic Colombel, Aymar de Gouvion-Saint-Cyr, pour la société civile, des représentants des membres du CODEVIA, Catherine Baudet et Philippe Ledu, et pour les membres de ce comité de pilotage élus de la communauté de communes, moi-même, Isabelle Lavastre, Jean-Luc Dubois et Yannick Larivière-Gillet. Je propose maintenant que soit, parce que ce n'était pas dans les annexes, ou si c'était dans les annexes, mais de manière non synthétique, Maxime, si vous pouvez afficher le tableau qui permet de visualiser, merci. Pour le volet investissement, les propositions de projets à inscrire en année 1 au contrat du Val-d'Ille-Aubigné, qui ont été travaillées, hein, au niveau de la communauté de communes et avec les membres du conseil départemental et qui ont fait l'objet d'une validation au dernier comité de pilotage. Donc l'année 2023, en domaine en thématique tourisme, le désaménagement au domaine de Boulay à Fins, pour un montant total d'opération de 499 895 euros, avancement du projet l'APD, taux d'aide demandé 50%, soit un montant hors bonus de 249 948 euros. L'étoile indique que le bonus est sollicité. En mobilité, 3 liaisons cyclables, la liaison cyclable Fins-Montreuil-sur-Isle, la liaison cyclable Saint-Aubin-Moisé, la liaison cyclable Montreuil-Legal-à-Mézières pour un montant total de 490 220 euros. Projet tous les trois à l'état d'APD avec une subvention, un taux d'aide demandé de 50%, soit 245 110 euros et bonus sollicité. un dernier, un cinquième projet, accès aux services, extension du pôle communautaire, projeté à Montreuil-le-Gap pour un montant total de 2 832 000, avec un taux d'aide demandé de 20%, soit 572 745 euros, et un bonus potentiellement sollicité selon la nature du projet, donc ça veut dire que ça reste à être précisé. Au total, pour l'année 2023, une sollicitation de 1 067 803 euros sur un total de travaux de 3 822 115 euros. Le contrat présente également des propositions à inscrire dans les années 2 et 3. Ce qui est proposé, titre de ce contrat, pour 2024, trois opérations. La création de locaux, épicerie solidaire, Resto du Cœur, sur la zone des Landelles à Melesse, pour un montant estimatif de travaux de 600 000 euros et un taux d'aide sollicité à 50%, soit une aide à 300 000. Atelier île et développement, chantier d'insertion à Andouillé-Neuville, pour un montant de 310 000 euros de travaux estimés, 50% de l'aide sollicitée, soit 155 000. Les terrains familiaux et aires de moyen passage pour les familles de gens du voyage, pour un travaux d'aménagement, montant estimatif de travaux d'aménagement de 115 000 euros, avec un taux d'aide sollicité à 50%. Et sur ces trois projets, également l'étoile de sollicitation potentielle selon le détail des projets. Et pour 2025, trois autres opérations en termes de mobilité. Liaison cyclable Saint-Aubin-Saint-Germain, liaison cyclable Andouillé-Saint-Thomas-de-Migné et liaison cyclable Saint-Thomas-de-Migné-Saint-Médard-sur-Isle. L'étoile de Saint-Aubin-de-Migné vers Saint-Germain, Andouillé et Saint-Médard. Pour un montant de travaux estimé aujourd'hui à 240 000, d'une part 450 000, d'autre part et 390 000, et un taux d'aide sollicité à 50% pour l'ensemble de ces opérations, et avec en effet sollicitation du bonus. Donc, au total, sur les années 2 et 3, une sollicitation à hauteur de 1 052 500 euros pour un total de travaux prévu de 2 105 000. Et au total, de ce contrat de solidarité territoriale avec le département, 2 120 303 euros sur un total de travaux de près de 6 millions d'euros. Sachant que, tel que ça a été mentionné, je l'ai rappelé tout à l'heure dans la présentation de la note, pour les années 2 et 3, des ajustements resteront possibles. Avez-vous des demandes de précision ou des questionnements ? Je peux donc soumettre au vote. Donc je vous invite à valider cette proposition qui a été examinée en comité de pilotage, donc de valider le contrat de solidarité territoriale 2023-2028 avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, tel que je viens de le synthétiser dans cette proposition année 1, puis 2 et 3 des projets envisagés, retenus et envisagés. Qui ne prend pas part à ce vote ? Gaël Mestri, qui est opposé à cette proposition, qui souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Donc dans la suite, Gaël va m'aider. Au niveau départemental, la validation va se faire prochainement. Comment ? Et la signature est... Oui, merci. Et la signature, la date de signature est déjà calée.
Voilà. D'abord, il y aura formellement la signature du nouveau contrat,
oui.
Sachant que la communauté de Val-d'Aubigné est dans les premières, si ce n'est la première, à signer ce nouveau contrat, et ensuite vote en assemblée départementale et en avant.
La signature est prévue le 26 septembre à 17h30, de mémoire, je parle de mémoire là, salle des Iris à Melas. Cette salle-là, parce qu'il y avait une salle au pôle communautaire, n'était pas disponible. Et j'ai compris dans les propos du président vendredi dernier que la rechauffée doit être en number one dans la signature. Mais on devrait être en effet sur le podium. Bien, merci beaucoup. Le point suivant à l'ordre du jour, le point 6, rapport, présentation du rapport de gouvernance et de gestion 2022 de la SEM Terre et Toit. Je vais laisser Isabelle faire cette présentation.
Donc vous avez l'Assemblée générale ordinaire en pièce jointe où on va. Oh, je vais reprendre quelques points. Donc dans le cadre, pourquoi on fait ce rapport, hein, c'est dans le cadre de la loi 3DS et du décret du 4 novembre 2022, applicable à compter du 1er janvier 2023. Les élus mandataires au sein du conseil d'administration doivent présenter un rapport à leur collectivité délibérante, les informant notamment de la situation économique, financière et juridique des établissements publics locaux, EPL, dans lesquels elles siègent au CA et ou à l'Assemblée spéciale. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée pour vote dans les 3 mois qui suivent l'Assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'EPL. L'Assemblée générale de la SEM Terre et Toit, dont la communauté de communes est membre actionnaire, s'est tenue le 23 janvier dernier. Donc le rapport de gestion et de gouvernance pour l'année 2022 est disponible en annexe. Il est précisé aujourd'hui, la SEM Terre et Toit ne mène aucune opération pour le compte de la communauté de communes. Mais nous allons voir que pour les communes, elles en mènent. Il vous est donc, je vais rapidement proposer de défiler sur l'Assemblée générale ordinaire, présenter les grandes lignes. Alors, voilà le rapport. Donc, la société est composée donc, de 21 actionnaires, 18 administrateurs, 3 censeurs. Aucun changement n'est intervenu concernant l'actionnariat dans l'année. L'Assemblée générale des collectivités territoriales s'est donc réunie le 7 juin 2022. Le capital social s'élève à 5 millions d'euros au 31 décembre 2022. Donc la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné est actionnaire. Montant du capital social détenu, 5 008 euros. Le nombre total d'actions à 16 euros détenus, 313. Et leur répartition du capital, c'est 0,10%. Vous avez toute la liste des actionnaires. D'où le nom de la... En fait, il s'agit d'une SEM. Le conseil d'administration informe les actionnaires qu'il s'est réuni par 2 fois au cours de l'année 2022. Donc, vous avez le détail de ces conseils d'administration. Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale 1 fois au cours de l'année 2022. Vous avez le détail de cette assemblée générale. Nous pouvons regarder le... personnel de la société, donc la présidence, ben vous connaissez monsieur Jean-Luc Chenu, la vice-présidence Anne-Françoise Courteil, et puis ben vous connaissez peut-être certains membres pour ceux qui connaissent un peu la SEM. Donc le personnel de la SEM Terre et Toit se compose au 31 décembre 2022 de 17 personnes. 7 hommes, 10 femmes, 13 cadres, 4 agents de maîtrise et 17 CDI. La masse salariale brute s'élève à 752 804 euros pour l'exercice 2022. Fin février 2022, la société a déménagé au village des collectivités à Torigny-Fouillard dans des nouveaux locaux appartenant au département d'Ille-et-Vilaine. La société a fait réaliser des travaux d'agencement qui ont été mobilisés pour un montant de 97 074 euros. Contrôle externe, Terre et Toit a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2022 de type périodique. Ce dernier n'a pas donné lieu à rectification ou à redressement. « Donc, la présentation des comptes annuels est écrite. L'activité de la société se solde pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2022 par un résultat bénéficiaire de 156 741,69 euros. Donc, il y a tous les comptes, hein, vous pouvez consulter. Les activités opérationnelles de l'exercice écoulé, donc c'est la page 25. Les concessions d'aménagement, donc sur la communauté de communes, il y a 4 communes qui ont des concessions. La commune de Saint-Aubin-d'Aubigny avec la ZAC du chêne Romé, qui prend fin le 11 juillet 2027. Le budget équilibré, hein. On est en avancement pour les recettes à 96% et pour les dépenses à 84% pour la ZAC du chêne Romé. La commune de Gare, c'est la ZAC Saint-Fiacre, qui se termine le 4 novembre 2032. Les recettes, on a un avancement de 7% et les dépenses sur de 10%. Fins, la ZAC du Grand Clos, qui se termine le 24 octobre 2026, avec un budget, un avancement de 35% et en dépenses 31%. Et la ZAC de Saint-Médard-sur-Isle, qui est la ZAC de la Croisée des Chemins, qui se termine au 13 juin 2029, avec un avancement en recettes à 0% et un avancement en dépenses à 11%. Donc on voit que à part la ZAC de Saint-Aubin-d'Aubigny, les autres ZAC ont encore du travail et encore des logements à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois... Bon, si juste une, pour ceux qui ne connaissent pas la Terre et Toit, ils ont aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vous avez une liste, mais aucune des communes de la communauté de communes n'a utilisé les services de Terre et Toit. Après, donc bien, il y a le détail de toute de la communication hein, qu'ils font, donc les salons, les stylos. Les sites, si vous voulez aller sur leur site Terre et Toit, où vous avez aussi Mon Terrain 35, où vous pouvez voir les terrains qui sont disponibles. Et puis, je voulais juste dire que le directeur qui était M. Tolek Patrice, pour ceux qui le connaissent, est parti au mois de juin, et c'est M. Jean-François Broutel qui est le nouveau directeur, que je ne sais pas si mes collègues connaissent, mais moi, je ne le connais pas. Donc, on va certainement le rencontrer d'ici peu. Voilà.
Oui, si je peux juste préciser, nous, on a fait appel à la SPL qui nous a, on va dire, planté, puisqu'on avait un projet de rénovation de vestiaire et on a signé une convention, donc c'est en 2023. Donc c'est pas 2022, mais en effet le directeur a changé. Et là apparemment ça a été un petit peu compliqué ces derniers mois. Et voilà, donc du coup on a résilié la convention et on fait par nous-mêmes. Voilà.
D'autres demandes de précision ou questions? Nous devons valider le rapport de gestion et de gouvernance de la SEM, c'est une obligation. Pour l'année 2022, telle qu'Isabelle nous a synthétiquement présenté les points essentiels. Donc sur cette validation de rapport de gestion et de gouvernance 2022, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Très bien, merci. Le point suivant à l'ordre du jour pour le point 7, délégation d'exercice du droit de préemption urbain à Montreuil-sur-Isle. Isabelle ?
Oui, alors le droit de préemption urbain, je pense que tout le monde connaît cet outil. qui est un outil de politique foncière qui permet aux titulaires de se porter acquéreurs de façon prioritaire des biens en voie d'aliénation dans des zones préalablement déterminées dans le but de réaliser des actions opérations d'intérêt général. Le Val-d'Ile Aubigné est compétent de plein droit pour instituer, exercer et déléguer le droit de préemption urbain. Par délibération 2020-204 en date du 25 février 2020, le Conseil communautaire du Val-d'Ile Aubigné a institué un droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines ou d'urbanisation futures délimitées par le PLUI. En application de l'article L211-4 du Code de l'urbanisme, ce droit de préemption n'est pas applicable à l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis à la date du projet d'aliénation. Très longue les phrases, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis 10 années, au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage. La date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai. Très bien. Donc, ce droit de préemption n'est pas applicable à la cession de parts ou d'actions de société et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui y sont accessoires. Ce droit de préemption n'est pas applicable à l'aliénation d'un immeuble bâti pendant une période de 4 ans à compter de son achèvement. Donc, par délibération 2023-27 en date du 14 mars 2023, le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain a été modifié afin de respecter l'évolution du PLUI qui a modifié le périmètre de la zone urbaine à Montreuil-sur-Ville et de la zone à urbaniser à Saint-Germain-sur-Ille. En application d'article L213-3 du Code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. Par délibération en 2020-214 et en 2023-28, le Val-d'Ile Aubigné a délégué à la commune de Montreuil-sur-Ille l'exercice du droit de préemption urbain sur les secteurs correspondant à ses domaines de compétences afin de faciliter les acquisitions par préemption et afin de pouvoir réagir rapidement en cas de déclaration d'intention d'aliéner ou de demande d'acquisition d'un bien. La commune de Montreuil-sur-Ille a reçu une DIA le 18 juillet 2023 concernant la parcelle 6-2 rue des Artisans à Montreuil-sur-Ille, cadastrée AC431 d'une contenance totale de 1 000 m². Cette DIA vise la cession d'un cabinet médical. La parcelle AC431 se situe en zone UA3 du PLUI. Donc la communauté de communes, Val-d'Ile Aubigné, est titulaire du droit de préemption sur ce secteur. Par courrier en date du 26 juillet 2023, la commune de Montreuil-sur-Ille a demandé une délégation de l'exercice du droit de préemption pour ce bien. La commune estime que ce bien est stratégique pour le maintien de son offre en santé. Donc afin de permettre l'acquisition par préemption pour cette opération d'intérêt strictement local et qui ne relève pas du champ de compétence de la communauté de communes, Monsieur le Président propose de déléguer à la commune de Montreuil-sur-Ille l'exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation du bien 6-2 rue des Artisans à Montreuil-sur-Ille.
Merci. Y a-t-il des compléments à apporter ou des questions ? Je pense que c'était parfaitement explicite. Donc je propose la validation au vote du Conseil communautaire. Cette décision de déléguer à la commune de Montreuil-sur-Ille l'exercice du droit de préemption pour ce bien, rue des Artisans à Montreuil-sur-Ille. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé ? Ne prennent pas part au vote. Les élus de Montreuil-sur-Ille ne prennent pas part au vote. C'est noté. Qui est opposé ? qui s'abstient. Très bien. Donc le conseil a délégué ce droit de préemption à la commune pour ce bien. Le point suivant. Convention avec Mégalis d'accès. Convention avec Mégalis pour l'accès au logiciel d'instruction ADS. Isabelle.
Alors, l'instruction du droit des sols sur les 19 communes du Val-d'Isère-Aubigné est assurée par un service commun placé sous l'autorité gérée par la communauté de communes Val-d'Isère-Aubigné. La mise en place de ce service se fait par la mise en commun de moyens humains et matériels. Elle n'emporte pas transfert de compétences, le maire restant seul compétent pour délivrer ou refuser les autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols. Le choix a été fait de faire supporter l'intégralité des coûts de fonctionnement du service à la communauté de communes. Donc, les moyens matériels, c'est le logiciel de gestion des autorisations d'urbanisme, OpenADS. Le marché ADS, donc Mégalis actuel, est arrivé à son terme le 3 juillet 2023. Donc, un nouveau marché est porté par Mégalis pour la période 4 juillet 2023 au 3 juillet 2027, donc pendant 4 ans. Suite à la CAO de Mégalis du 15 mai 2023, la solution Oxalis d'Opéris a été retenue, c'est celle que l'on a déjà. La convention d'accès au service d'instruction des autorisations de droit de sol est proposée par Mégalis pour une durée de 1 an à compter du 4 juillet 2023 pour les adhérents historiques du service, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 3 juillet 2027. Donc 4 ans, renouvelable 3 fois si je ne me trompe pas. L'adhésion au service implique la souscription de prestations obligatoires qui portent à la fois sur de l'investissement et du fonctionnement. Des prestations complémentaires sont définies pour étendre le service et couvrir les besoins en formation. Le barème des contributions est précisé dans le projet de convention en annexe. La liste des prestations obligatoires et complémentaires prévues dans le cadre de cette convention ainsi que le barème de contribution d'accès au service sont aussi précisés en annexe. Donc, sur la base de ce barème, le coût estimé pour la collectivité pour le fonctionnement annuel est de 4 758 euros hors taxes. Donc, ce sont les prestations obligatoires. Ce coût regroupe les frais de maintenance et assistance annuelle pour un montant de 2 262 euros hors taxes, les frais de gestion de projet et d'animation de la communauté de communes pour un montant de 1 170 euros hors taxes, ainsi que les frais de maintenance annuels du portage Généau, 1 326 euros hors taxes. Des frais d'hébergement annuels seront à inclure également. Ces derniers seront établis pour chaque adhérent selon l'usage constaté au mois de septembre de chaque année et appelés en début d'année suivante. La présente convention prévoit la possibilité pour chaque adhérent d'activer des prestations complémentaires dont les coûts sont détaillés par la convention.
Merci. Des demandes de précision ? Je soumets donc au vote. Et en vous demandant de m'autoriser à signer cette convention d'accès au service d'instruction des autorisations du droit des sols avec Mégalis. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? En vous remerciant. Point 9, marché d'hébergement cloud, lien internet et téléphonie, signature. Jean-Luc, si tu veux bien, Isabelle, le micro. Merci.
Marché d'hébergement cloud, lien internet et téléphonie. Donc une consultation pour le renouvellement du marché de prestation de services relatif à l'hébergement cloud, les liens internet, téléphonie décomposée en trois lots, prestation d'une durée de 3 ans, a été lancée sous la procédure d'un appel d'offres ouvert. Donc, elle s'est déroulée du 6 juillet de cette année au 16 août à midi. Nous avons au total 7 offres répondant à un ou plusieurs lots ont été reçus sur la plateforme des marchés Imégalis, dont une non recevable car ne répondant pas à l'obligation du cahier des charges qui était de faire une visite obligatoire sur site pour connaître un peu l'état des besoins. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 25 août à 11h, a pris connaissance du rapport d'analyse des offres et a décidé d'attribuer les marchés comme suit. Donc, premier lot, c'était les liens Internet donc à l'entreprise Optima DSI pour un montant total de 82 508 euros hors taxes. Le lot 2, c'était cloud et les licences Microsoft à l'entreprise également Optima DSI pour un montant total de 224 901 euros hors taxe. Et le lot 3, qui est nouveau, téléphonie sur IP à l'entreprise également Optima DSI, pour un montant total de 101 512 euros hors taxe, soit un marché total de 408 921 euros. Hors taxe sur les trois années de durée du marché. Le point particulier, c'est que les deux premiers lots étaient des lots déjà en place. Le troisième lot est nécessité par le vieillissement de tous nos autocoms et de toute façon par la bascule nécessaire de la voie sur IP dans toute notre infrastructure, ce qui permettra entre nos différents sites d'avoir une communication beaucoup plus facile pour quiconque appellerait un service de la communauté de communes et voudrait passer après d'un service à l'autre oui. Situé sur plusieurs sites.
Tout à fait. Merci. C'est clair pour tout le monde. Donc, je vous propose de m'autoriser à signer le marché avec l'entreprise attributaire des trois lots, Optima DSI, conformément à la décision de la commission d'appel d'offres, et de faire exécuter ce marché. Qui prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? En vous remerciant. Le point suivant. Point RH. Jean-Luc, s'il te plaît.
Donc, le décret 2023-519 du 28 juin dernier porte majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des collectivités territoriales et hospitalières. Et donc, ce décret a pour objectif la revalorisation du point d'indice, donc 1,5% au 1er juillet, l'attribution de points d'indice majorés différenciés au 1er juillet également, et l'attribution de 5 points d'indice majorés au 1er janvier 2024. Donc, l'attribution des points d'indice majorés au 1er juillet 2023 s'applique de droit à tout le personnel, fonctionnaire et contractuel. Et vous avez la liste de toute la grille qui est impactée. Il y a 9 premiers échelons de l'échelle C1, 7 C2, 3 C3, 5 premiers échelons pour le premier grade du B, 2 échelons dans le deuxième grade du B, 6 échelons dans le grade d'agent de maîtrise, 2 échelons dans le grade d'agent de maîtrise principal et 3 échelons dans le grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale pour ce qui nous concerne. Et donc pour les fonctionnaires, les arrêtés de revalorisation sont en cours de rédaction et c'est automatique. Et donc comme nous le faisons habituellement, donc pour le personnel contractuel, nous sollicitons l'autorisation pour faire la même chose et signer les avenants d'attribution de points qui concerne 8 agents du pôle enfance solidarité, un agent pour le pôle eau agriculture environnement, 2 agents pour le pôle ressources et 2 agents pour le pôle de techniciens. Le coût total sur 6 mois est de 3 056,30 euros, mais nous appliquons un principe, je dirais, de l'uniformité sur l'ensemble du personnel, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel.
Merci. Demande de précision, soumis à votre vote, donc de validation, d'autorisation. Je sollicite le Conseil communautaire pour m'autoriser à signer les avenants d'attribution de points d'indice majorés, différenciés, correspondants, tels que Jean-Luc Dubois vient de nous les présenter. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? En vous remerciant. Le point suivant, toujours RH.
Donc, il concerne le chargé de mission projet alimentaire territorial et donc le fait de poursuivre son contrat de projet. Donc, le Conseil communautaire avait créé ce poste contrat de projet lors de la séance du 9 novembre 2021. Il y a une délibération du 2022-126 du 29 mars 2022 qui a validé le recrutement d'un agent contractuel à compter du 1er avril pour une durée de 18 mois. Donc, pour rappel, la mise en œuvre du projet alimentaire territorial nécessite l'exercice des missions de mission spécifique dans le respect de la stratégie définie par le projet alimentaire territorial, donc la mise en œuvre, l'animation, la coordination et l'évaluation du projet alimentaire territorial, la planification, mise en œuvre et évaluation des actions relevant du volet alimentation, le suivi, le pilotage des prestataires, le suivi de l'enveloppe budgétaire, les demandes de paiement de subventions et le bilan financier du projet en clôture, la cartographie des acteurs de l'alimentation locale, et l'élaboration de notes de synthèse, tableau de suivi budgétaire et d'avancée des actions et reporting dont des présentations ont été faites dans cette instance. Donc le projet n'est pas encore finalisé et les financements associés étant prolongés d'une année, il est proposé de prolonger le contrat de projet également d'une année, soit jusqu'au 30 septembre 2024. Donc l'agent contractuel actuellement sur le poste, au vu de ses qualifications et de l'expérience, percevra la rémunération fixée sur la base de la grille indiciaire relevant d'attachés territoriales catégorie A, deuxième échelon, indice brut 469, majoré 410. Et donc le régime indemnitaire s'appliquera conformément au régime voté dans cette instance. Donc ce poste, c'est important de dire, c'est que ce poste est cofinancé à 100% via le PAT, avec un montant plafond de 89 670 euros sur la durée du PAT. Le plafond devrait être dépassé d'approximativement 20 000 euros avant la fin d'éligibilité fixée au 30 juin 2024. Ce dépassement du plafond devrait pouvoir être pris en charge sur une autre ligne du PAT, sera formellement demandé lors de la demande d'acompte de la subvention de septembre. Et à ce jour, le poste reste à la charge intégrale de la communauté de communes pour les 3 mois suivants, afin de gérer la demande de solde de la subvention et clôture du PAT, qui évidemment est importante. Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l'opération pour lequel elle a été conclue. Le contrat donc sera renouvelable par reconduction express lorsque le projet ou l'opération prévue n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. Et donc la durée totale des contrats de projet, de toute façon, ne peuvent pas excéder 6 ans. Donc il est proposé de valider ces nouvelles modalités.
Merci beaucoup. C'est clair pour tout le monde. Je soumets au vote. Donc de validation des modalités de ce contrat et de m'autoriser à signer ce contrat. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant, création d'un poste d'auxiliaire de puériculture classe normale.
Donc, comme il se doit, donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, donc, les emplois de l'établissement sont créés par l'organe délibérant. Donc, il appartient donc à notre conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires aux fonctions des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. C'est le cas de ce sujet, puisqu'une agente du pôle Petite Enfance Solidarité en CDI sur le grade d'agente sociale principale deuxième classe catégorie C, depuis mars 2017, a réussi le concours d'auxiliaire de puériculture de classe normale en catégorie B. Et donc, les missions effectuées actuellement par l'agente correspondent au grade obtenu par le concours. Donc, pour pouvoir nommer l'agente, il est nécessaire de créer un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale. Donc, l'échelonnement indiciaire, la durée de carrière, les conditions de recrutement sont fixées conformément au statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux. Le tableau des effectifs de l'établissement sera modifié en conséquence et les crédits nécessaires à la rémunération d'agente, ainsi nommés les charges sociales si importantes, sont bien inscrits au budget, aux articles et chapitres prévus à cet effet. Donc il est proposé de créer ce poste permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture en catégorie B sur les gardes d'auxiliaires de puériculture culture classe normale à auxiliaire de puériculture classe supérieure à compter du 1er octobre 2023. Et donc la suppression du poste précédent d'agente sociale principale seconde classe sera proposée ultérieurement dans le cadre de la mise à jour annuelle du tableau des effectifs de la collectivité après examen en comité technique.
Merci beaucoup. Donc je soumets à votre validation la création de ce poste. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Les deux points suivants concernent des conventions financières de reprise de jours de CET.
Oui, effectivement, donc des conventions financières de reprise de jours CET. Pour le premier, donc la loi, donc ça c'est prévu pour la loi prévoit qu'un agent public conserve ses droits de congé acquis au titre du CET en cas de mobilité, mutation, intégration directe au détachement, disponibilité ou de congé parental et de mise à disposition. Donc elle prévoit également la loi que les collectivités ou établissements peuvent par convention prévoir des modalités financières de transfert de des droits à congé accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement de collectivité ou d'établissement. Donc la présente convention a pour objet de définir les conditions financières de reprise du compte épargne-temps d'un agent dans le cadre de sa mutation de la communauté de communes Val-d'Illomier vers la métropole. Le 14 octobre 21, à jour effectif de sa mutation, les soldes des droits d'utilisation de cet agent attaché territorial étaient de 11 jours. Et donc, compte tenu que les 11 jours acquis au titre du CET au sein de Val-d'Illomier seront pris en charge par l'établissement public d'accueil. Il est convenu qu'à titre de dédommagement, une compensation financière qui s'élève à 1 485 €, donc c'est 11 jours à 135 €, les 135 € correspondant à un montant forfaitaire réglementaire en cas de monétisation du CET, donc vous avez, parce que c'est catégorie A, donc c'est 135 €. Dans les autres catégories, vous avez 90 € pour la catégorie B et 75 pour la catégorie C. Donc, il est précisé évidemment qu'avant de partir, l'agent n'a pas pu solder son solde CET en raison des nécessités de service. Et donc, il a été vérifié, ce qui semble nécessaire, qu'évidemment, il y a réciprocité dans ce genre de choses. Et donc, il y a bien réciprocité avec Rennes Métropole qui ferait de même dans l'autre sens. Voilà ce qui est proposé, donc, de prendre en charge cette somme de 1 485 €.
Merci. Je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Donc, je propose la validation par le Conseil communautaire. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. La suivante, Jean-Luc.
Donc, la suivante concerne un autre agent. Donc, c'était le responsable du pôle solidarité. Donc, je ne vais pas revenir sur les règles qui s'appliquent. Et donc, cet agent, donc, la présente convention, donc, a pour obtenir de définir les conditions financières reprises du compte épargne-PAN de cet agent dans le cadre de sa mutation, cette fois vers le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Donc, le 3 janvier 23, jour effectif de ces mutations, les soldes et droits d'utilisation du CET attaché territorial étaient de suivants. Donc là, ils sont significatifs hein, puisqu'ils étaient de 46,5 jours. Donc, acquis au titre du CET au sein du Val-d'Ille-Aubigné et donc qui seront pris en charge par, non pas la commune d'accueil, mais le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, je pense. Et donc, soit une somme qui est de 6 277,50 €, qui devrait être versée au conseil départemental à titre de dédommagement. Donc, ça correspond aux 46,5 jours à 135 €. Donc, suivant les mêmes règles tout à l'heure. Donc, il est précisé que l'agent n'a pas pu solder son solde CET avant que son départ en raison des services. Et donc, évidemment, nous avons vérifié que le conseil départemental ferait de même dans la situation réciproque. Donc, voilà, c'est le même type de validation à faire donc, pour cette convention, pour un montant cette fois-ci beaucoup plus significatif.
Merci. Une demande de précision. Donc, je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. À suivre, vous avez les informations des décisions que j'ai pu prendre en vertu des délégations reçues, à la fois sur les commandes de vide quarta et une formation sur la version 2 du logiciel, des informations sur les aides versées au titre de l'amélioration de l'habitat. Concernant l'utilisation du logement d'urgence, pardon, et puis le rappel des délibérations prises en bureau délibératif du 30 juin dernier. Merci. Ceci clôt les points inscrits à l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je vous remercie pour votre participation.